podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Barlier.
C'est parti pour un nouveau dossier de Frontières des séries. Cette fois-ci, nous allons parler de Father Ted, une série humoristique britannico-irlandaise de 24 épisodes répartis en 3 saisons et un épisode spécial de Noël. Father Ted voit le jour en 1995 sous l'impulsion de Graham Linehan et Arthur Matthews. C'est sur Channel 4 qu'elle fait ses premiers pas dès le 21 avril et sur la RT2 en Irlande. Elle a également été diffusée en France en 1998 sur Jimmy, une chaîne du groupe Canal+. Cette série a en tout cas le mérite d'avoir marqué ses téléspectateurs puisqu'elle a été désignée en août 2012 comme meilleur programme comique de Channel 4. De plus, elle a reçu un accueil chaleureux des critiques et a été récompensée par plusieurs BAFTA, dont celui de meilleure comédie. Pour rappel, les British Academy of Film and Television Awards, c'est l'équivalent des Césars français ou des Primetime Emmy Awards aux États-Unis. Le pitch de départ de la série a déjà de quoi faire sourire. C'est l'histoire de trois prêtres complètement hors normes. Bannis par l'église catholique pour leurs mauvaises actions, ils se retrouvent exilés sur la petite île de Craggy Island, au large des côtes irlandaises. À leur côté, Mrs. Doyle, une gouvernante excentrique et une tripotée de prêtres plus bizarres les uns que les autres. Pour interpréter tout ce beau monde, on retrouve Dermot Morgan, décédé le lendemain de la diffusion du dernier épisode de la saison 3, Frank Kelly, Ardal O'Hanlon et Pauline MacLean. Et pour parler et évoquer Father Ted aujourd'hui, c'est Sébastien Porcu, bonjour.
Bonjour.
Et avec nous, Nathanaël Picasse, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors Seb, ce qui fait mouche, c'est l'absurde de la série.
Alors oui Alex, comme tu viens de le dire, Father Ted se remarque surtout pour son humour. Déjà, le pitch de départ annonce la couleur, donc on a ces trois prêtres au comportement peu catholique qui sont finalement exilés sur cette île. Pour composer ce joyeux trio, on a le père Ted Creedy, le père Dougal McGuire et le père Jack Hackett. On va commencer par le début. Donc Ted est un homme d'église, pas vraiment comme les autres. Il a été à Las Vegas avec de l'argent destiné à financer le voyage d'un jeune enfant à Lourdes. Et donc, il est finalement rapatrié sur Craggy Island. Ted, qu'est-ce qu'il veut? Ben, c'est une autre vie. Il a très peu d'égards finalement pour ses paroissiens et se plaint de son quotidien. Et au final, son but ultime, c'est vraiment d'assouvir ses rêves de gloire et de célébrité très très loin de Craggy Island. À ses côtés, donc, on a Dougal McGuire, qui est un parfait simplet, qui prend tout au premier degré. Il remet même très souvent en cause les fondements de l'église catholique et ses croyances, ce qui est quand même assez paradoxal pour un prêtre, vous le conviendrez. Dougal, au final, a un bon fond, mais il est incapable d'avoir du recul sur lui-même et sur les événements qui l'entourent, donc il est jamais loin d'une phrase malheureuse ou alambiquée. Et pour finir, le père Jack Hackett, qui est un parfait déchet ecclésiastique, donc il est alcoolique, obsédé et surtout sans aucune manière. Sa surdité récurrente est due au bouchon de cérumen qui s'accumule dans ses oreilles, et ses camarades utilisent d'ailleurs le surplus pour confectionner des bougies. Ça veut tout dire.
Ça, c'est vraiment une image qui m'a marqué, parce que j'ai vu quelques épisodes de Father Ted quand j'étais plus jeune, et c'est vraiment, quand on me parle de cette série, j'ai cette image en tête, c'est cette fameuse bougie, et on explique que ça vient du cérumen du vieux déchet. Effectivement, c'est vraiment le truc qui m'a marqué.
D'ailleurs, lui, il passe son temps, la plupart du temps, à pioncer dans un coin d'un vieux fauteuil pourri de leur habitation, et quand il pionce pas, il boit ou il hurle pour avoir à boire.
Ah, il est ignoble, hein.
Ouais, c'est vraiment un déchet de l'humanité.
Il est absolument répugnant. Ce qui m'avait aussi marqué dans cette série, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont, pour le coup, désolé pour le jeu de mots, pas très catholiques, en fait, ces prêtres. Je ne sais même pas s'ils ont la foi, en fait, finalement.
C'est vrai qu'à ce niveau là, on est en droit de se demander, mais finalement, qu'a fait l'église catholique pour mériter trois prêtres de la sorte? Et c'est vrai qu'on comprend directement leur exclusion justement sur cette fameuse île. Et donc, ils ne sont pas vraiment totalement seuls parce qu'au sein de leur petite maison, ils sont accompagnés par Mrs. Doyle, donc qui est leur gouvernante. Alors, elle est dévouée aux tâches ménagères du matin au soir. Elle ne rechigne pas à donner sa personne. Et dans ses occupations préférées, donc, on a la confection minutieuse du thé, si bien qu'elle en devient belliqueuse si les convives n'y goûtent pas. C'est vrai qu'avec des personnages en couleur comme ça, c'est difficile de s'ennuyer, vous allez me dire, et il est vrai que la série remplit son but premier avec efficacité, donc on rit beaucoup, tant l'humour y est complètement déjanté. Donc c'est vrai que si la saison 1 m'a particulièrement accroché, c'est parce qu'elle est fraîche. Ces situations de la vie de tous les jours sont ponctuées par les délires des personnages, et on découvre vraiment les traits de caractère des uns des autres, et le côté décalé marche finalement plutôt bien. Donc je pense à ces fameux moments où le père Dougal regarde par la fenêtre, et à chaque fois, on peut voir des images qui sont totalement en décalage avec la réalité. L'intérieur d'une fourmilière, une tempête quasiment tropicale, et j'en passe. Et il y a des sketchs qui sont juste tout bonnement hilarant, un tourniquet pour handicapés, un concours de prêt de sosie, une femme écrivaine que Ted croise partout, encore un appel téléphonique récurrent qu'il passe à plusieurs prêtres qui cause instantanément leur mort immédiate.
On est vraiment dans l'humour 100% anglais absurde, hein, clairement.
C'est totalement ça, c'est vraiment la marque de fabrique de la série, et je pense de pas mal de séries anglaises où on note directement ce cachet totalement absurde et limite presque sans limite. On se demande jusqu'où est-ce qu'ils vont pousser le délire, et finalement, en tout cas avec Father Ted, ça marche très 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 bien.
On est même dans presque du Monty Python. Moi, c'est ce que j'ai retenu aussi de cette série, c'est cet humour qui va n'importe où, et ça peut être totalement visuel d'un côté, puis ça peut être un gag sonore de l'autre, et puis c'est un gag super gras à côté.
Ouais,
c'est...
D'autant qu'en plus, chaque épisode raconte une histoire suivie du début à la fin, ils sont aussi parsemés de plusieurs sketchs qui n'ont pas nécessairement à voir avec l'histoire en elle-même, toujours dans le même cadre évidemment. Donc effectivement, le rapport avec les Monty Python, c'est aussi assez évident, quoi.
Ou Little Britain. Mais Little Britain, là, c'était pour le coup vraiment que des sketchs qui avaient vraiment rien à voir les uns avec les autres. Mais on est aussi dans cet humour pachydermique, mais qui...
aussi une fange de la société assez particulière.
Ah oui, ça c'est sûr. on est en train de racler les fonds, mais et on a l'impression qu'il n'y a vraiment que les Anglais pour pouvoir pondre ce genre de série. Ça ne pourrait pas exister dans un autre pays, quoi. Les Américains, ou même en France, ou en Belgique, ça ne peut pas exister ailleurs.
C'est vraiment totalement ça. Et ce qui est génial, c'est que c'est vraiment assumé jusqu'au bout. Donc, c'est pas qu'un sketch va passer, voilà, sur le côté. Au contraire, ça va vraiment être amplifié au maximum pour arriver à donner tout l'impact comique de la série. Et donc, on remarque que dans la saison 1 particulièrement, qu'on a pas mal de situations variées. On s'ennuie très peu, même si on a peut-être quelques sketchs qui tombent un petit peu à plat. Et c'est malheureusement là le problème de la saison 2 qui multiplie un peu les situations excentriques à tout va. Donc, la série perd un peu de sa force et devient vraiment une sorte de grosse parodie d'elle-même. Donc on sourit, mais on ne rit plus autant qu'avant. C'est un virage qui, heureusement, a été bien rattrapé dans la saison 3, qui retrouve un petit peu de son intérêt. L'humour y est un peu plus corrosif, on note également de nombreuses parodies de genre, celle du film d'horreur avec une invasion de mamies qui sont prêtes à tout pour voir leur chanteur préféré, ou encore un film de guerre où une dizaine de prêtres essayent tant bien que mal de sortir du rayon lingerie d'un supermarché sans se faire voir. Bref, ça part vraiment dans tous les sens, mais c'est très très bien orchestré, et certains running gags sont juste excellents. Mrs. Doyle et son thé, Ted et ses justifications répétées, l'argent n'a fait que transiter sur mon compte. Et évidemment, le père Jack et sa panoplie de répliques, Vaffier à boire du cul des filles, ou encore Dougal qui salue l'évêque par un salut laine. C'est juste exceptionnel.
Et alors, ce que tu disais tout à l'heure aussi, qui est intéressant, c'est que pourquoi l'Église catholique a hérité de trois hurluberlus pareils, mais on ne croise pas qu'eux comme prêtres. Et tous ceux qu'on croise ont l'air encore plus pire que ces trois-là.
C'est vraiment ça, en fait. Chaque prêtre qu'on rencontre, ils ont tous une particularité qui limite différente les trois prêtres principaux. Presque pour des enfants de cœur, finalement, quand on voit ce que d'autres ont pu faire ou les magouilles dans lesquelles ils sont impliqués.
Et est-ce que c'est une série à charge contre l'Église? Bon, à l'époque, quand je l'ai vu, je n'ai pas analysé ça comme ça, mais est-ce que, avec le recul, est-ce qu'on est dans la critique quelque part de l'Église ou du système, de la structure de l'Église, ou c'est juste une excuse pour mettre des personnages un petit peu déjantés dans un certain contexte qui prête à sourire?
Justement, c'est totalement justifié. Donc, c'est-à-dire que Father Ted, il explore de nombreux thèmes, mais il se moque évidemment avec virulence de la religion catholique. C'est-à-dire que certaines remarques des protagonistes sont très très bien placées dans le contexte de l'époque. Par exemple, dans les thèmes abordés et parodiés, la série fait beaucoup référence à l'actualité. Donc, c'est-à-dire que dans un épisode, on a le père Ted qui constate que le laitier, donc il y a un homme bourru rempli de poils mais absolument partout, qui profite de l'absence des maris pour draguer les femmes du village. Et on constate très peu de temps après une recrudescence de bébés poilus, ce qui fait que le père Ted comprend directement que ce dernier, voilà, couche avec toutes les femmes et décide de lui signaler en lui disant « Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez-vous !» Et là, le laitier lui assène une pique excellente, il lui dit « Et quoi mon père, vous prenez les moyens de contraception maintenant ?» Et ce qui est génial, c'est qu'en Irlande, les préservatifs ont été interdits de 1935 à 1980. De plus, en 1990, le sida fait rage et l'Église catholique s'oppose toujours fermement à l'utilisation du préservatif comme moyen de se protéger du virus. Il y a aussi un couple qui se bagarre sans arrêt dans la saison 1 et qui devient tout mielleux devant les membres du clergé. On a pas mal de trucs comme ça quelques épisodes plus tard, ça j'ai trouvé ça génial. Donc on a le père Ted qui écoute la retransmission d'une course hippique à la radio et il encourage un cheval qui est nommé Divorce Référendum. Et le divorce n'a été légalisé en Irlande qu'en 1996 dû à une influence énorme de l'Église. Ce qui fait que son rôle dans l'identité culturelle irlandaise a été prédominant pendant de nombreuses années. Et voilà exactement le genre de choses qu'on peut retrouver dans Father Ted. Donc sous un assemblage loufoque, la série arrive à faire passer ses idées, ses messages en lien avec le contexte de l'époque. Et moi, pour cela, je ne peux que l'applaudir à ce niveau-là.
Never turn on the television when Father Jack's asleep. You know how he is. But he's always asleep. Yes, well, anyone who's served the church as long as he has deserves a rest.
It's actually quite an honor for us to look after him in his old age, you know. Look at him, dreaming of past glories, no doubt.
Girls, pay attention. We've got a special treat today. Barbara Hackett has very kindly volunteered to take an all for volleyball practice. Oh, right, Father. And he's just reminded me that it's very warm today, so there'll be no need for your tracksuit tops.
Hello. Father Dougal McGuire here. And welcome to this week's Top of the Pops. And in at number 45 this week is Father Ted Crilly with I've Got the Power. And at number 15 for the 16th week in a row is Father Jack Hackett with I'm a Sleepy Priest.
How does that gobshite get on the television?
Hello to all. Is the television broken again, Father?
Yes, we had a bit of trouble with
it. Never you mind, there's nothing wrong with it that can't be fixed with a bit of you-know-what in the head department. Now then, who's for tea?
Me, please, Mrs. Doyle.
Tea! Sick!
I'm fine, Mrs. Doyle.
You won't have a cup.
Ah, no, thanks, Mrs. Doyle. Honestly, I won't have a cup.
Are you sure now it's hot?
No, I'm not in the mood, thanks.
All right, so. I go on, would you not have a drop?
No, thanks anyway,
just
Mrs. Doyle.
Cup.
I'm fine. No, really.
I'll tell you what, Father. I'll pour
seriously.
A cup for you anyway.
Ah!
You can have it if you want. Now. And what do you say to a cup?
Take off, cup!
He loves his cup of tea.
Take off!
There you go.
Take off!
Father Crilly, I nearly forgot. There was a phone call earlier from a Terry McNamee.
Ah, right.
Who's that, Ted? I've never heard of him.
Well, he's something to do with the... Wasn't it the television?
Yes, he's coming to fix the television.
Yeah, well, he'll be here tomorrow at 12.
Grand.
Tu as dit tout à l'heure en introduction que la saison 3 s'était terminée finalement par un deuil puisque l'acteur qui joue le père Ted est décédé un jour après la diffusion de la saison 3. Est-ce que c'est ça qui a provoqué la fin de la série en fait?
Non, pas vraiment, parce qu'en fait, il avait déjà prévu, donc Dermot Morgan avait déjà prévu d'arrêter vu le décès inopiné voilà, de l'acteur, des suites d'une crise cardiaque dans sa résidence londonienne. Mais voilà, cet acteur et ce personnage a longtemps aussi hanté les esprits, si bien qu'en 2013, on a un documentaire qui a été diffusé sur RTI, donc la chaîne irlandaise, dans laquelle on voit ses anciens partenaires de scène se confier. Alors il est dépeint comme un éternel insatisfait, Morgan y doutait énormément de lui, et il estimait ne pas être au top de son niveau. Il était toujours dans un état permanent de stress, nervosité, et bon, évidemment, de nombreux pensent que c'est ça qui l'a tué finalement. C'est un improvisateur de talent, donc il n'apprenait que très peu ses lignes. Finalement, ce qu'on voit dans la série, c'est souvent voilà, de l'improvisation, des répliques qu'il lançait comme ça. Mais ce qui n'a pas donné fin à la série, c'est parce qu'il avait déjà décidé de ne pas la poursuivre, de peur voilà, d'être catalogué dans ce rôle toute sa vie. Et c'est vrai que c'est quand même un rôle très marquant, en tout cas qui lui collait bien la peau. Il avait également d'autres projets qui n'ont malheureusement pas pu voir le jour, comme un projet de stand-up.
Et c'est vrai que là aussi, où il n'a pas tort, effectivement, c'était d'arrêter après tant qu'il n'a encore temps. Moi je vois ça aussi avec Jennifer Saunders par exemple pour Absolutely Fabulous. Même si elle a fait d'autres choses à côté, elle a quand même des difficultés à se sortir vraiment de ce rôle de Edina, et régulièrement d'ailleurs on annonce le retour d'Absolutely Fabulous pour quelques épisodes et on en fera un film prochainement. Et c'est vrai que quand t'as des séries comme ça avec des personnages aussi forts et avec un humour aussi fort, c'est bien de pouvoir s'arrêter à temps même si on reste sur un goût de trop peu.
Et c'est vrai, là je vais faire totalement une digression, on va dire. Par exemple, si on prend juste le rôle de Jennifer Aniston dans Friends, il est clair que même dans les films qu'elle a pu faire par la suite, ce n'était qu'une déclinaison finalement de Rachel dans toute sa splendeur. Et il est vrai que lorsque on lui propose des films par exemple comme Cake où elle s'est très brillamment illustrée, ben voilà, je crois que ça permet aussi à la fois de casser l'image sans forcément renier le personnage qu'elle a joué, mais qui n'ont été finalement que des déclinaisons de ce qu'elle a pu faire dans les autres films.
Ce qui est terrible pour Jennifer Aniston, c'est que quand on la voit au cinéma, on voit Rachel en fait. On voit pas une actrice, on voit Rachel qui a une autre perruque, une autre coiffure, mais on voit Rachel. Et donc forcément, on rattache son personnage à tout ce qu'on avait pu voir dans Friends. Et évidemment, ça, c'est quelque chose de très difficile à tirer derrière soi, évidemment.
Mais elle a encore eu la chance de pouvoir jouer d'autres rôles. Quand on se rend compte que Matt LeBlanc est obligé de jouer le rôle de Matt LeBlanc dans l'épisode, ce qui fait très bien d'ailleurs, mais bon, c'est un peu pathétique pour l'acteur qui finalement n'a pas vraiment réussi à rebondir.
La plupart d'ailleurs, enfin aucun des Friends n'a rebondi vraiment à côté, quoi.
À part Courtney Cox.
Oui, on va dire ça.
Avec son cul de sac. Bref, revenons à Fazantel.
Et justement, maintenant, on va réécouter un extrait voilà, qui illustre, je pense, très très bien le grand talent de Dermot Morgan, notamment dans une séquence où il est avec Dougal et ils veulent absolument aller voir une colline, parce qu'on appelle ça la falaise du mort, en hommage à un jeune homme qui s'était suicidé l'année d'avant. Donc voilà, c'est vraiment l'humour absurde dans toute sa splendeur.
Ted, you can go with the crane of death, Ted.
The what?
The crane of death. It's called that because there was a young fella killed on it last year. Come on, Ted, be really good.
Look, I'm sick and tired of your cat.
Ted, look, there's a fortune teller. Come on, we'll have one go in there.
Don't waste your money on that stuff, Dougal.
Oh, Ted, you never know. There might be something in it.
It's rubbish. How could anybody believe any of that sort of nonsense?
Come on, Ted, there's no more peculiar than that stuff we learned in the seminary, you know, heaven and hell and everlasting life and all that type of thing. You're not meant to take it seriously, Ted.
Dougal, you are so too meant to take it seriously.
Are you?
Yes!
Oh, heaven and hell and everlasting life.
Yes, of course! If I let you go in, will you go home straight after that?
I will, I promise, Ted.
All right.
Hello?
Let's go, Ted.
What's on?
I'm scared. Oh, for pity's sake, look, I'll do it and you can watch. Hello there!
Sit! First you must cross my palm with silver.
Silver? I don't carry huge bags of it around.
Give me a pound! Now, I'll interpret one card at a time, please.
Be careful. I wasn't concentrating. Perhaps I could pick another.
No, this is a common misunderstanding. The Grim Reaper doesn't mean death in a literal sense. Rather, it may mean the death of an old way of life and the beginning of a new one.
I know what that is. It's probably about a new lamp I'm getting for my bicycle.
Please.
Good?
Well, it will all become clear at the next card. This is really weird. There's only supposed to be one in each pack.
Father Ted, finalement, c'est quand même déjà une série qui a 20 ans. Est-ce que si on la regarde aujourd'hui, est-ce qu'elle garde son humour intact? Est-ce que c'est toujours regardable maintenant avec les codes d'aujourd'hui?
Que ça soit aujourd'hui ou que ça soit, je pense, dans 10 ans, c'est une série qui se laisse quand même facilement regarder parce que voilà, c'est finalement des situations qui sont totalement absurdes et c'est rudement bien mené, surtout par des personnages voilà qui ont de très forts caractères, qui sont totalement différents les uns des autres. Et voilà, finalement, on s'y plaît bien, on a les petites habitudes, des personnages aussi récurrents, des situations récurrentes, mais qui font vraiment partie totale de l'univers, et on n'est pas dans, par exemple, un épisode concept ou quelque chose de très très référencé, même si c'est référencé à l'actualité, mais même sans ça, on peut quand même apprécier juste pour le décalage et l'absurde des situations qu'on rencontre.
Et puis on a l'impression aussi que, vu que ça se passe sur Craigie Island, qui est une petite île hors du temps, on a l'impression que rien n'y a changé depuis des siècles. Enfin, l'évolution est arrivée, mais petit à petit, l'électricité, le gaz et compagnie. On a l'impression que la série aussi est hors du temps. Donc, on n'a pas un problème de ce qu'on évoquait tout à l'heure hors antenne, des gros téléphones portables qui faisaient 10 tonnes. Parce que non, voilà, le Father Ted et ses deux compagnons, ils ont un vieux téléviseur avec un gros bouton dessus. Mais c'est totalement logique parce qu'on voit très bien un curé sur une île perdue entre deux eaux. Avoir ce type de téléviseur, avoir ce type de matériel, parce que pas beaucoup de moyens et que c'est toujours des choses qui sont possibles, quoi. On l'imagine pas avec un écran plat. Donc en plus, ça joue du fait que cette série ne vieillit pas parce que ces décors ne vieillissent pas, voilà.
Et je pense aussi même par rapport à ces personnages qui sont tellement atypiques, finalement, le père Dougal, on a déjà vu des personnages de simplet ou d'idiot, mais
celui-là, il est ultime quand même.
Celui-là, il est génial. Je me rappelle d'une scène qui est juste mémorable où il va dans la chambre à coucher avec Ted, vu qu'ils ont leurs deux lits qui sont séparés dans la même pièce.
Et lui, il a d'ailleurs souvent des pyjamas ou des housses de couette aux couleurs de super-héros, si je me
souviens. Oui.
Bande dessinée.
Effectivement. Et donc, il commence à discuter pendant la nuit. Je ne sais plus de quoi il parlait exactement. Et puis, le père Ted finalement éteint la lumière. Et tout d'un coup, il n'arrive plus à dormir. Il la rallume. Et Dougal lui dit, La nuit est passée tellement vite, je n'ai rien vu, mais c'est vraiment voilà le type d'humour absurde et le type de personnage qu'on se plaît vraiment à regarder encore et encore pour savoir mais qu'est-ce qu'il va balancer encore comme connerie, et c'est juste purement jouissif.
Ce qui est très étonnant dans ce que tu nous disais, c'est que apparemment donc l'acteur principal jouait beaucoup d'improvisation, alors que tout a l'air tellement écrit dans la série, enfin pas dans, d'une manière négative, hein, mais notamment la manière de réagir de Dougal par exemple, ça a l'air tellement au millimètre qu'on se dit tiens, ils ont quand même réussi à mettre beaucoup d'improvisation là-dedans. Ça, c'est quelque chose qui me surprend dans ce que tu dis là.
Mais je pense que voilà, cette remarque s'appliquait particulièrement sur Dermot Morgan.
Mais il faut savoir réagir à quelqu'un qui improvise comme ça. Et donc, c'est encore plus fort de la part du gars qui jouait Dougal de réussir à garder le flegme et à jouer le personnage tel qu'il le joue en sachant que l'autre en face, il est en roue libre totale, quoi. Donc là, c'est encore plus surprenant, je trouve.
C'est pour ça, je pense aussi que vraiment la synergie, l'alchimie entre les personnages a très très bien fonctionné. Et même si, voilà, visiblement de ce qui se disait sur le plateau, c'était quand même quelqu'un voilà qui était assez stressé, etc. Donc il était très drôle mais qui ne se percevait pas comme tel. Il paraît donc voilà que ça a créé quand même quelques tensions au niveau du tournage. Maintenant, c'est clair que ça ne transparaît absolument pas dans la série et c'est ça qui est génial aussi.
Il a donc un petit côté Louis de Funès finalement. Même si Louis de Funès n'improvisait pas du tout, hein, il avait tout préparé à l'avance, mais il pouvait déstabiliser ses collègues acteurs puisqu'effectivement il pouvait partir en roue libre et tant que c'était et ça créait évidemment des fois des tensions.
La question qu'on peut se poser aussi, c'est au terme du tournage, combien de vertèbres fêlées a eu Pauline MacLean?
Alors ça. C'est effectivement, c'est
vu le nombre de chutes qu'elle a fait du rebord de la fenêtre.
C'est une très bonne question, mais elle fait énormément de chutes. Elle glisse, elle tombe et elle revient toujours avec cette bonne humeur vraiment intarissable et ce côté j'y vais quand même, ne vous inquiétez pas.
Elle se demandait parfois si elle n'est pas limite aussi premier degré, aussi bébête que Dougal, parce qu'on lui dit quelque chose et elle continue à sourire et elle le prend pas mal. Et voilà, elle est aussi très premier degré finalement.
Ah oui, elle est très très premier degré et voilà, je pense que ça fait vraiment partie de son personnage, donc c'est un petit peu les besoins peut-être basiques qu'elle cherche voilà à communiquer, donc c'est un sourire, une tasse de thé, j'ai envie d'être intéressant, de
envers et contre tout.
Ouais, voilà, c'est vraiment ça quoi.
Une conclusion.
Ah, je pense que je peux trouver ça. Ah, là ça y est, je viens de la trouver cette conclusion. Donc au final, Father Ted se démarque particulièrement par son traitement de l'humour. Donc on a des gags de répétition, de la satire, de l'absurde, de la caricature et ça se mélange parfaitement bien. Les personnages sont très typés. Et même si on peut reprocher le côté un peu toonesque de certains, le but de la série, c'est finalement de faire rire avant tout. Donc derrière sa simplicité apparente, Father Ted, pour moi, c'est vraiment une critique également de la religion catholique, en particulier de l'importance de l'Église en Irlande. Et c'est vraiment une sorte de plaidoyer, je vais dire, en faveur d'une véritable sécularisation, finalement, de la société. Donc, pour ma part, je dis oui. Et je pense même que je vais la faire découvrir autour de moi.
Et ben voilà, on espère en tout cas qu'on vous aura donné l'envie de regarder Father Ted, parce que c'est vraiment une série qu'il faut découvrir si vous ne l'avez pas encore découverte. On se retrouve très prochainement pour un prochain dossier de Frontières des séries. Merci Seb, merci Nat, et à très vite.
Retrouvez aux Frontières des séries sur le web www.afds.tv.